Dans un nouvel horaire, c'est le moment de retrouver la première émission du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. La préhistoire a ses écoles, ses courants, ses chapelles, qui font de cette science une discipline segmentée. Ainsi, mon invité est incontestablement marqué du sceau de l'école de Bordeaux, celle de François Borde, formé à la préhistoire ancienne et à la géologie du Quaternaire. Il est pourtant un des rares chercheurs à avoir réussi à décloisonner sa recherche, passant de l'étude de sites et de leur culture matérielle à l'étude de l'art rupestre le plus ancien. Jean-Michel Genest, bonjour.
Bonjour Vincent.
Conservateur général du patrimoine, ancien directeur du Centre national de préhistoire, conservateur de la grotte de Lascaux, puis directeur du programme d'études de la grotte Chauvet-Pont-d'Arc, tel est votre pédigré, sans oublier votre dernier ouvrage, Si loin, si près, pour en finir avec la préhistoire, une conversation avec Boris Valentin, habitué de l'émission d'archéologie de France Culture, ouvrage qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Jean-Michel Genest, avant d'évoquer les merveilles de l'art ancien, revenons aux fondamentaux. Souvenons-nous de notre émouvante exploration de la grotte de la Moutte avec Édouard Lapeyre, son chien, mais aussi celle hier au cœur de la grotte Chauvet. Remontons le temps, voici plus de 30 ans, me voici au cœur de la vallée de l'Isle, en Dordogne. Vous y fouillez alors une toute petite grotte comsonnière ?
En effet. Comsonnière, une petite grotte qui venait d'être découverte et attribuée aux Solutréens. Et c'était cela qui nous surprenait à l'époque.
Alors Comsonnière, c'était une grotte, mais ça ne l'était déjà plus.
Non, ça ne l'était plus parce que il en restait plus grand-chose. Il y avait un petit escarpement et un gros tas de déblais. Et le temps que nous découvrions que ce fut, entre la période de paléolithique et l'actuelle, une grande carrière de meules pour écraser le grain qui était... Ces meules étaient exportées sur la vallée de l'Isle. Nous avons dû déblayer un certain nombre de centaines de mètres cubes.
La vallée de l'Isle, c'était une petite vallée qui, d'un seul coup, était tout à fait nouvelle, exploratoire.
Oui, exploratoire. Ces vallées qui sont situées au nord de la Vézère, l'Isle, la Drône par exemple, renferme un certain nombre de gisements anciennement fouillés, le fourneau du diable.
Solutréen lui aussi.
Solutréen.
Un des rares habitats d'ailleurs.
Voilà. Et justement, cette petite grotte de Comsonnières était un jalon entre les grands sites solutréens que sont Laugerie Haute, dans la région des Aizis, en vallée de Vézère, et puis le fourneau du diable. Donc on était extrêmement intéressé parce que l'essentiel des sites solutréens ont plutôt été découverts au 19e siècle et au tout début du 20e.
Alors de quoi s'agit-il ? Une petite halte de chasseurs itinérants à la recherche de gibier ?
La fouille de cette petite grotte, donc ces quelques dizaines de mètres carrés accessibles, nous a tout de suite montré que compte tenu de son exiguïté, elle n'avait pas pu être occupée par un grand groupe, mais néanmoins elle a été occupée pendant fort longtemps. Donc c'était un jalon qui était signifiant dans un territoire, signifiant probablement en termes de logistique, en termes de chasse et d'économie de chasse. Probablement. On y a des cultures du moustérien jusqu'au solutréen, mais l'habitat solutréen était particulièrement riche. Et riche en objets de parure corporelle, mais extrêmement riche en diversité de pointes de projectiles, ce qui nous a rapidement mis sur la piste d'une halte de chasse, de chasseurs qui, à différentes saisons, venaient avec des équipements très complémentaires. Des gammes de pointes en silex, mais des gammes de pointes en bois de renne, armées avec des lamelles à dos, etc. Donc une diversité d'armes et donc probablement une diversité d'utilisation et de fonction de ces armes de chasse.
C'est en général quoi, 6-7 chasseurs qui se promènent ?
Raisonnablement, la grotte, le site, n'a pas pu acquérir ou contenir pendant un certain temps plus de quelques personnes, une poignée, un groupe de chasseurs, à une période qui était particulièrement froide. Donc cette petite grotte exiguë avait des capacités à être protégée, à être fermée. Le sol est couvert et rempli de foyers, de fosses. On y a fait du feu, on y a malgré tout entretenu une certaine vie domestique parce que ce sont des centaines de milliers d'artefacts qui sont trouvés sur le sol de cette petite surface. Donc une densité d'occupation, une densité d'activité surtout.
Aujourd'hui, 30 ans après, on peut imaginer que Compsognières est un site publié qui a intégré les connaissances sur cette période solutréenne.
Ce site nous a permis de capitaliser deux choses. D'une part, la difficulté d'étudier dans le détail et de bien distinguer, de bien séparer les uns des autres tous ces niveaux d'occupation dans une grotte qui a été par conséquent un petit peu chamboulée par les événements climatiques et par l'action des animaux. Elle est très dense et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore en retard de publication sur ce site en termes de publication de synthèse. Nous avons publié beaucoup d'articles, souvent orientés vers la culture matérielle, la fonction de ces pointes de projectiles, l'utilisation des armes de chasse, des systèmes de lancer. On y a trouvé les premières rafales d'aiguilles à chat en bois de renne, résolument bien datées. On y a trouvé des crochets de propulseurs, nous remettant sur la piste, effectivement, d'une diversité de systèmes de propulsion.
Jean-Michel Genest, cette fouille est un bon exemple pour évoquer la période solutréenne, définie bien sûr en 1872 par Gabriel de Mortillet à partir des vestiges exhumés au pied de la fameuse roche près de Mâcon.
Oui, et elle est surtout pourvoyeuse d'informations complémentaires par rapport aux très grands sites qui ont été fouillés. On ne va pas ainsi y trouver des grandes séries de ces objets exceptionnels que sont les feuilles de laurier de grande taille qui ont été découvertes dans la région de la Saône-et-Loire, à Volgu par exemple, dans la cache de Volgu. On va y trouver au contraire une diversité des centaines de plus petites pointes de projectiles que sont les pointes à cran, des milliers de petites lamelles à dos qui armaient les saguets. Le tout utilisé, tout impacté sur l'animal. Donc, plutôt une information sur ce qu'il y a dans un site qui est une halte de chasse, en retour de chasse. On a eu une information paradoxale dans ce site-là. On n'a pas une abondance de restes osseux d'animaux chassés. On a une extraordinaire abondance de pointes de projectiles fragmentées et très peu d'ossements. C'est-à-dire ce qu'on rapporte au campement, ce qui reste lorsqu'on fonctionne et lorsqu'on vit, et lorsque ce site pourrait être raisonnablement un satellite d'un de ces grands sites que nous évoquions, le Fourneau du Diable au nord, ou l'Augerie Basse au sud, 40 km chacun.
Le Solutréen, on est dans une période majeure, on est vers 22 000 à 17 000 avant notre ère à peu
c'est
près.
C'est ça, aux alentours de 22 000, 23 000 aujourd'hui, en date calibrée, c'est-à-dire en année solaire.
On attribue bien sûr à cette période une invention, vous en parliez à l'instant, l'invention de l'aiguille à chat, ça reste quand même une industrie extrêmement, exceptionnellement belle, au travers de la production de sortes de feuilles de laurier notamment, le tout en silex.
Oui, ces feuilles de laurier sont l'objet d'un savoir-faire particulier qui montre que dans les techniques utilisées à l'époque par les artisans, ils débitaient aussi bien des rognons de silex pour en produire des lames, ils les retouchaient à la percussion comme les feuilles de laurier, avec un percuteur en matière tendre pour enlever des éclats plats. Et donc, ils sculptaient en quelque sorte des sortes de bifaces très allongées, d'où les termes foliacés. Mais en même temps, ils avaient aussi une grande maîtrise de la retouche à la pression, qui consiste avec un compresseur d'appuyer sur un silex au grain particulièrement fin et de sculpter beaucoup plus finement des pointes extrêmement effilées comme les pointes à cran dites solutréennes ou bien pour finir les petites feuilles de laurier avec une retouche extrêmement tranchante. Bref, il y a là une diversification des solutions techniques de la taille du silex et de la taille des matières organiques qui est certainement spécifique à cette culture qui se développe au sein du dernier maximum glaciaire, une période particulièrement froide et rigoureuse qui a mis certainement en échec ou en difficulté les cultures humaines et les sociétés animales.
On évoque souvent l'émergence de spécialistes, tellement les pièces sont belles. Quelle pouvait être leur place au sein de cette société ?
La technique de la taille du silex montre qu'effectivement qu'à cette période du solutréen, mais probablement plus anciennement au gravettien, il y a d'une part des productions qui sont exceptionnelles, comme ces très grandes, élégantes et donc très fragiles feuilles de laurier. Donc il est peu probable qu'elles aient eu une utilité fonctionnelle. Elles ont plutôt eu une fonction emblématique, symbolique, visuelle, en termes de pouvoir, en termes de différenciation culturelle d'un groupe à l'autre. Leur possession était une valeur symbolique ajoutée. Et à ce moment-là, il est donc clair qu'il y avait à certains moments et dans certains groupes des artisans spécialisés, disposant d'un savoir-faire particulier qui était largement supérieur à celui que tout un chacun, que tous les chasseurs devaient posséder et qui leur permettait de pourvoir à la fabrication de ces mêmes pointes de projectiles, mais plus simples, plus ordinaires, sur des matériaux plus courants et dans des formes plus fonctionnelles.
Pour vous, ces grandes pointes auraient pu être des marqueurs identitaires ?
Des marqueurs identitaires, l'objet d'échanges entre les groupes, dont la possession indiquait peut-être un statut particulier pour certains groupes, certains clans, certaines parties de la société. C'est-à-dire que dans le grand collectif, il y avait déjà des marquages de certaines inégalités sociales. C'est une grande évidence.
Une des grandes questions sur laquelle vous êtes penché était de savoir quel instrument lançait ces pointes. Le fameux propulseur, une sorte de bâton qui fait levier, ou déjà l'arc. Vous avez du coup fait des expérimentations.
Pour essayer d'aller au-delà de ce présupposé que l'on pense, ces idées relativement simples, il a fallu procéder à des expérimentations assez poussées. Et ce sont des centaines, des milliers de pointes de projectiles qui ont été utilisées en expérimenter les systèmes de montage, les fixations sur la hampe, des différents types de hampe. On a mis au point des systèmes de lanceurs automatisés qui donnaient immédiatement l'énergie et la vitesse de vol de ces projectiles. On les a utilisés et testés dans des laboratoires de la gendarmerie, de l'armée, où on teste des armes, effectivement, pour calculer leur vitesse, leur énergie. Et on a essayé de distinguer, et c'était l'objectif, l'impact, la manière dont se fracture sur un impact, par exemple un os dans une carcasse d'un grand herbivore, une pointe de projectile selon qu'elle est lancée avec une flèche et qu'elle a une légère énergie cinétique ou une très lourde lorsqu'elle est montée sur une sagaie et lancée avec un propulseur accroché. Ainsi, on a pu distinguer qu'il y avait, dès cette époque, probablement l'usage de l'arc et peut-être même probablement plus anciennement, dès les gravettiens, cette époque où on voit apparaître dans les industries une multiplicité de pointes de projectiles d'un gabarit assez léger, produites en très grand nombre et qui ont la capacité d'être montées sur des fûts plus ou moins gros et à ce moment-là lancées à l'arc et au propulseur. On a la chance aussi à Comsonnières d'avoir trouvé un numérus de cheval dans lequel est profondément enchâssée une pointe de projectile. Et là, on sait à peu près que c'est pas l'énergie de l'arc qui permet à une pointe en silex de rentrer de 3 cm dans un os aussi consistant qu'un numérus de cheval.
Si on ratait son coup, la pointe cassait par force.
La pointe va se casser et va se casser sur un rocher, par terre ou que sais-je.
Donc il fallait en produire des quantités absolument énormes.
Et c'est probablement pour cela que dans ce site, dans ce petit site, on a des centaines et des milliers de pointes de projectiles utilisées. C'est-à-dire que ce qui était important aussi, c'était de rapporter au campement pour les remonter, les hampes en bois, probablement empennées avec leur système de fixation et de ligature, qui étaient peut-être plus rares et plus précieuses que la pointe elle-même.
Jean-Michel Genest, vous avez eu aussi la charge de la grotte de Lascaux. Justement, certains chercheurs attribuent cette grotte à la période solutréenne. Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, pour dater l'art pariétal, on peut dater stylistiquement, mais on a pu dater Lascaux en datant des objets de la culture matérielle, des objets et notamment des pointes de sagaie en bois de renne qui ont été trouvées sous les œuvres ornées et qui ont participé certainement à cet épisode culturel et qui nous ont donné des âges qui collent et qui tombent dans la période solutréenne. Mais néanmoins, l'archéologie de la grotte de Lascaux, quelle qu'elle ait été, prouve que tout l'ensemble des objets et des vestiges récoltés n'ont pas de caractère solutréen. Ils correspondent probablement à ce qui va suivre la fin du solutréen, le solutréen supérieur, et qui est le début du magdalénien. Et on est plutôt à une période charnière entre la fin du solutréen et du magdalénien, qui explique qu'on a des industries du Patgoulien, peut-être du magdalénien ancien dans la grotte de Lascaux, par les sagaies, par l'outillage, par un certain nombre de manières de préparer, de tailler des lamelles ou des petites raclettes, que du solutréen à proprement parler. Et en même temps, ça nous montre les limites que nous avons dans la succession des cultures vues de notre point de vue. Il ne faut pas imaginer une succession cut, immédiate, directe, mais probablement des cultures effilochées qui se succèdent, qui se transfèrent et qui se transforment les unes dans les autres. Et que les régimes et les vitesses de transformation de la culture matérielle ne sont probablement pas les mêmes que celles que l'on observe au niveau de l'art, des expressions de l'esprit. Et c'est un des hiatus majeurs que l'on a pour essayer d'obtenir des équivalences chronologiques entre la succession des cultures et la succession des styles de l'art.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Jean-Michel Jeunesse, peut-on passer de l'étude des silex, la culture matérielle, à d'un seul coup l'art? Voilà un cheminement qui est paraît étonnant et qui est assez rare dans la profession des préhistoriens.
Il est peut-être rare, mais moi il m'a paru quasiment vital et il est devenu logique. D'abord parce que, étant conservateur au ministère de la Culture, je me trouvais proche de la grotte de Lascaux matériellement et en même temps préoccupé par le devenir et la conservation de ces sites. Mais dans l'exercice de la science qui est quelque chose et qui impose une relative neutralité, une abstraction pour pratiquer la science de manière objective et rigoureuse, il n'empêche que le chercheur, comme tout individu, est soumis à ces trois grandes sphères d'expression. L'individu s'exprime par rapport au milieu extérieur, par rapport à l'environnement, il a son propre milieu intérieur et il est dans une collectivité dans laquelle il fonctionne et réagit. Les documents de la culture matérielle nous documentent sur les modalités de l'extérieur de ces hommes du passé, mais assez peu sur leur mode intérieur. Donc j'étais depuis longtemps en manque et l'art m'a permis d'aborder plutôt la sphère intérieure de ces hommes, puisque ce sont là des manifestations de l'esprit. Donc j'ai essayé de rentrer dans ce collectif et cet intérieur, et je pense que, ayant beaucoup pratiqué l'étude de la culture matérielle, je suis resté un observateur, un regard extérieur. J'ai toujours voulu rester ce généraliste qui avait été formé, justement, comme vous le disiez, par l'école de Bordes. Et j'ai regardé l'art avec mon regard un peu singulier, en y faisant des fouilles, des étudiants, en essayant de le documenter et de le contextualiser environnement parlant par rapport à sa culture matérielle, et donc à enrichir cet objet d'étude pour accéder, comme j'essayais d'accéder à ce qu'il y a derrière une pointe de projectile, j'essayais d'accéder à ce qu'il y avait dans la motivation de la première image d'art.
Je le disais en début d'émission, hier j'étais dans la grotte Chauvet. 30 minutes de promenade que vous m'avez offert.
Oui, justement. J'ai essayé de passer du temps aussi à me familiariser avec les technologies du numérique et essayer de voir ce qu'aujourd'hui on peut apporter dans la médiation scientifique en essayant d'amener le spectateur, c'est-à-dire tout cet immense public qui est fasciné par l'archéologie parce que nous faisons un métier extraordinaire. Nous avons la chance de fréquenter, de toucher, de vivre dans les mêmes sites et les mêmes lieux où ont vécu des populations passées et de les rapprocher, ces populations actuelles et passées. Donc une des solutions que j'ai trouvées avec l'arrivée du numérique, ce sont ces systèmes immersifs qui permettent de prendre un spectateur aujourd'hui et de l'amener dans le site, dans le lieu, lui faire partager des émotions et des éléments qu'on ne peut pas faire avec une publication, qu'on ne peut pas faire seulement avec des mots et avec des photos.
Comment avez-vous fait, puisque aucune caméra n'est rentrée dans la grotte?
Ah ben justement, L'objectif était dans les grottes ornées comme Lascaux, Chauvet et d'autres, Altamira, que sais-je. Tous ces sites-là sont, il faut vraiment absolument les conserver pour l'avenir, les conserver pour notre population. Donc, on peut pas les mettre à mal en leur impliquant une équipe de tournage. Donc, par contre, on avait depuis des années, et c'est le travail du ministère de la Culture, numériser en détail, je veux dire avec précision, la totalité d'une grotte comme la grotte Chauvet, c'est-à-dire les panneaux ornés, mais aussi les sols, les plafonds, etc. Donc on disposait de données numériques qui étaient accessibles. Il a fallu, à partir de cela, développer des algorithmes de comme celles qu'on utilise dans la fiction, dans l'imagerie virtuelle, pour aller retravailler, simuler un mouvement de caméra, une trajectoire, un angle de prise de vue, de la lumière, et effectivement d'aller faire ce que aucune équipe de tournage, aucun éclairagiste ou autre ou réalisateur ne pourra faire, et caméraman, on a mis ce dispositif virtuel dans la grotte et on a développé à ce moment-là un parcours, fait une mise en scène la plus minimale possible, minimale au sens de l'épure, au sens de la qualité, c'est-à-dire on a essayé de faire émerger et vivre au spectateur la scénographie des paléolithiques mise en scène, c'est-à-dire c'est une trajectoire très simple, donc c'est un plan séquence unique où j'ai essayé de vous amener voir et visiter, mais expérimentez vous-même avec vos propres sensations, avec tout votre système sensoriel, ce que l'on voit entre l'entrée et le fond de la grotte Chauvet, et vous avez découvert avec émotion qu'il y avait une mise en scène, et qui n'est pas ma mise en scène. Il n'y a pas, le réalisateur Pascal Magontier n'a pas coupé, n'a pas fait un montage de plan susceptible de subjuguer cette émotion. C'est l'émotion originale des concepteurs de la grotte Chauvet.
Donc j'ai mis des lunettes pour plonger dans cette grotte, 30 minutes, c'est le temps pour cheminer, parce que l'on chemine réellement jusqu'au fond de la caverne.
On chemine à la vitesse de la marche d'un individu, moi-même, 1 mètre par seconde, et c'est le temps que je mets, 28 minutes, pour aller de l'entrée de la grotte actuelle jusqu'à la salle du fond, sans faire le détail de toutes les galeries, bien entendu. Donc c'est quelque chose de réel, c'est un parcours, la caméra est à hauteur de mon regard. Donc c'est un individu de taille normale qui rentre, lorsqu'il faut se baisser ou escalader, la caméra escalade aussi, etc. Voilà ce qu'on a fait. On a le seul élément rajouté, c'est que l'on a voulu, et j'ai souhaité en faire un spectacle, au même titre que les spectacles qui aujourd'hui attirent, fascinent les publics, dans les jeux vidéo ou dans une salle de cinéma. Donc c'est un spectacle avec une musique originale, avec une voix d'une comédienne, Anouk Grimbert, un texte qui est préparé mais qui n'est pas un commentaire, qui n'est pas didactique surtout. J'ai bien essayé, et nous avons avec le réalisateur, avec Pascal Magontier, essayé de laisser le spectateur être libre, se faire sa propre image, sa propre idée, bref, ressentir les œuvres. Et ça, c'était vraiment l'objectif.
Alors moi, ce que j'ai découvert, c'est une grotte blanche, jaune et ocre. Les grottes ont-elles des couleurs ?
Mais bien sûr que les grottes ont des couleurs. Et que vraisemblablement, la couleur de l'ornementation ou la couleur dans laquelle la vie est donnée ses œuvres, le rouge, le noir, tantôt le blanc, ici gratté sur la paroi ocre pour faire apparaître des œuvres en blanc, tantôt de la goethite qui est jaune, tantôt de l'hématite qui est rouge, bref, ce panel de couleurs, de couleurs fondamentale utilisée depuis les débuts de l'expression humaine, parce que bien avant les peintures de Chauvet, les Néandertaliens avaient utilisé du rouge, du noir pour peindre, peut-être pour peindre les corps, pour peindre eux-mêmes leur corps. Bref, mettre ce symbole si fort dans les activités sociales, les grottes ont une couleur, et entre autres, cette grotte-là, vous avez vu, la calcite est tantôt jaune, tantôt orangé, tantôt saumon sur les gourds. Bref, on est quand même dans un univers extrêmement coloré où il faut que la couleur appliquée qui donne vie aux œuvres soit en concurrence, en challenge et en harmonie avec celle de la grotte.
Moi, j'ai souvenir, par exemple, que la grotte du Portel en Ariège était totalement orange.
Mais bien entendu, Justement, c'est les couleurs des argiles qui composent les sols souvent, mais en même temps la couleur du calcaire et la couleur des voies de calcite sur les parois sont des éléments très importants du paysage souterrain. Parce qu'une grotte, c'est quand même l'équivalent d'un organisme vivant dans lequel on rentre. Il est vivant en ce sens qu'on voit bien l'eau qui coule, on voit bien la calcite en train de former ses cristallisations. On voit bien l'eau qui s'écoule.
Qu'en est-il justement des sons? Le sujet a été à plusieurs fois abordé par des chercheurs, mais le son devait être très important pour des chasseurs.
Probablement que les activités sociales qui avaient lieu dans les grottes ne pouvaient pas se limiter, à mon avis, et je suis pas le seul, aux œuvres graphiques. Il y avait certainement toutes les techniques du corps. Il faut imaginer le chant, la danse, la musique, les litanies, la tradition orale. Il y avait un corpus de tradition orale, de mythologie qui était à la fois dite, chantée, exprimée, et puis mythographiée, c'est-à-dire transposée graphiquement sur la paroi.
36 000 ans les peintures de la grotte Chauvet, 36 000 ans qui ont été récemment détrônées, ce record a été détrôné par une autre découverte bien plus exotique.
Oui, parce que surtout cette découverte en Indonésie, dans cet univers du Pacifique et de l'Australie, enfin sur ce chemin qui va de l'Eurasie à l'Australie, doit surtout nous rappeler que l'émergence de la pensée symbolique, avec l'émergence et l'externalisation de la capacité à exprimer graphiquement de la pensée par des dessins, par des expressions quelquefois abstraites, n'est pas né qu'en Europe occidentale, et qu'il y a différents foyers de naissance, et qu'il y en a un, entre autres, celui-ci, le foyer indonésien, puis après, il y aura certainement ceux de l'Australie, probablement. Il faut imaginer qu'il y en a d'autres dans le Pacifique, il y en a eu d'autres en Amérique du Nord, tout au long du continent américain, puisque celui-ci a été peuplé plus tardivement, etc. Cette naissance est multifocale.
Jean-Michel Genest, nos chasseurs paléolithiques ont quitté depuis bien longtemps les vallées du sud-ouest de la France. Toutefois, en Australie, les communautés aborigènes sont très impliquées dans leur art ancestral. Vous travaillez justement sur cet art dans les territoires du nord de l'Australie?
Oui, j'ai eu la chance d'être invité il y a longtemps maintenant en Australie du Nord, en terre d'Arnhem, ou très près de la zone où ont accosté les premiers migrants qui sont arrivés de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou d'Indonésie sur la côte nord australienne.
Et ça a été visiblement un véritable projet. C'est un papier qui est sorti il n'y a pas si longtemps.
Oui, c'est un beau projet puisque nous sommes allés étudier et invités par des communautés un site d'art rupestre où, rentrant en contact très rapidement avec ces sociétés, ils nous ont dit « Nous avons besoin, comme vous l'avez et comme vous le faites chez vous en Europe occidentale, si vous pouviez nous aider à raconter notre histoire ». Comment on pouvait faire? On a répondu, on va essayer, on pourrait fouiller, on pourrait documenter. Pouvons-nous fouiller sous les peintures? Et Margaret Catherine, qui est cette femme aborigène des Jawoyn, du clan Jawoyn, d'un territoire Jawoyn, qui m'avait accueilli, m'a dit, oui, il est possible de fouiller. J'ai dormi ici, j'ai été élevé là, fouillé ici. Et nous avons trouvé des dates de 45 000 ans pour les premières occupations. Et on y a daté des œuvres d'art tombées du plafond qui avaient 29 000 ans.
Et ça, c'est ce qui est plus vieux pour l'instant.
C'est ce qu'il y a objectivement de plus vieux sur le territoire australien, réellement très bien daté avec le carbone 14. Et ça a été une très grande expérience.
Qu'il s'agisse de la grotte Chauvet, Pont d'Arc ou d'abri sous roche australien, les cavités, hormis les peintures, sont-elles des lieux investis, aménagés, construits même?
Bien entendu, de plus en plus nous découvrons que autour des sites, il n'y a pas que l'art pariétal, il y a des aménagements. Les découvertes de la grotte de Pruniquel avec ses aménagements de stalagmites brisées, des aménagements ici et là dans la grotte Chauvet, ou bien l'immense construction et transformation du site de Nawala Gabarnmang en terre d'Arnhem a montré que pendant des dizaines de milliers d'années, des hommes ont transformé la paroi rocheuse, casser des piliers en quartzite et finalement édifier des espaces de vie, dégager de l'espace pour que la communauté puisse vivre. Bref, la vie sociale, la vie matérielle et la volonté d'aménager l'espace est totalement indissociable des expressions artistiques. C'est un tout.
Jean-Michel Genest, un très grand merci. Je rappelle à l'occasion le titre de votre dernier livre, Si loin, si près, pour en finir avec la préhistoire, une conversation avec Boris Valentin qui vient de paraître aux éditions Flammarion.
Merci.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Benjamin Vignal et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr, retrouver plus de 300 archives sur le site inara.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons les dieux et la religion de la préhistoire avec Marcelotte.